Hélène Pedneau. Une série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Troisième série, la déposition. Troisième partie. Dans la cellule de Léna Fulvi, qui ressemble étrangement au bureau de l'inspecteur. En supposant qu'il y ait pu y avoir un divan dans le bureau, celui-ci est devenu un lit simple. C'est la seule différence marquante. Autrement, les objets sont disposés de la même façon. Le bureau, la chaise. Pareillement, le bureau est rempli de papier, mais il n'y a pas de téléphone. Et dans la fenêtre, en supposant qu'il y en ait une dans le bureau, s'est ajouté un grillage, préférablement au barreau traditionnel. Tout ça pour que le public ne se rende pas compte immédiatement que nous avons changé de lieu. En gros, il verra en premier lieu le grillage, ensuite le lit et ensuite l'absence de téléphone. Cette partie est écrite dans une alternance de répliques courtes et de répliques longues, comme un spasme, une contradiction, celle de l'accouchement ou d'un battement de cœur. Tension, repos, tension, repos. L'inspecteur est assis, la cravate défaite sur une chaise droite, les coudes appuyés sur le bureau plein de papier, auquel il ne touche pas. Il fume lentement, éclairé seulement par une veilleuse branchée dans une prise près du plancher. Il aspire et expire les bouffées de sa cigarette assez bruyamment, comme le soldat dans la tranchée. Dans cette scène, il fume plus que dans la scène précédente, allant même parfois jusqu'à s'allumer au mégot qu'il vient de finir, mais pas du tout nerveusement. Il est lent. Le ton du début de cette scène est calme, posé, comme après l'amour, comme au-delà de la tension. La fumée des cigarettes qu'elle et lui fumeront fait partie intégrante de l'ambiance de cette scène, comme un petit brouillard sur l'aube, l'été, quand la chaleur s'annonce moite et le soleil tout puissant, avant la déchirure du jour, quand la clarté se devine davantage qu'elle ne se voit. Pendant toute la scène, l'inspecteur garde le même ton posé. Au début, Léna lui parle sur ce même ton, mais plus la scène avance, plus elle a le vertige. Son ton n'est plus jamais celui de la colère, de la rage, du cynisme. Plutôt écorché, cru, à vif, mais pas emporté. Je vois cette scène devenir très physique entre elle et lui au fur et à mesure que Léna descend, au fur et à mesure qu'elle manque d'air. Et l'inspecteur fait office de bonbonne d'oxygène. Il lui tient le corps pour lui éviter d'être emporté par les vagues d'émotions violentes qui la submergent. Accoucheur, maître zen, punching bag volontaire, comme vous voulez, un peu de tout ça certainement. Le jeu est physique, mais il n'y a pas de brusquerie. Il faut sentir le pas à pas, l'avancée lente mais inexorable. Léna est étendue sur son lit, elle sort des couvertures et s'appuie contre le mur, ses bras entourant étroitement ses jambes pliées. L'inspecteur se tourne vers elle.
Vous avez dormi 20 heures.
Ah. Vous êtes là depuis quand ?
Depuis les débuts de votre humanité.
Ils m'ont donné un somnifère. Pourquoi êtes-vous là ?
J'avais peur avec vous, je vous l'ai déjà dit.
Vous pensiez que j'allais me suicider ?
Je n'ai pas pris de chance.
Vous aviez peur que je meure en emportant mon secret ?
Non.
Vous pouviez me faire garder par quelqu'un d'autre ?
Oui.
Alors pourquoi vous ?
Je suis toujours mes dossiers de très près, seul.
Je suis un dossier ?
Non.
Vous auriez dû aller dormir. Si j'avais eu à me suicider, je l'aurais fait bien avant vous. Je n'ai jamais envisagé cette solution. C'est comme ça. Je n'ai pas de mérite. Je n'ai pas plus de vitalité qu'une autre. J'ai peur de la mort. C'est vulgaire.
Moi aussi.
On pourrait fonder un club.
C'est votre humour qui vous sauve, n'est-ce pas ?
De temps en temps.
Et le reste du temps ?
Le sommeil.
Jamais l'amour ?
Quel amour ?
L'amour humain ?
Saviez-vous que c'était le titre d'un très mauvais film québécois vaguement porno, avec Jean Coutu, je crois ?
C'est vrai. Excusez-moi, disons l'amour tout court, entre deux êtres.
Ça manque d'élévation. Nous sommes profondément vulgaires. Je vous scandalise. Je n'ai pas d'eau tiède à mon robinet. Ou je me brûle, ou je me glace. Mais je suis toujours vaguement outrancière. J'appelle ça mon petit côté Anna Magnani. Vous voyez le genre ?
J'ai vu.
La haine est souvent plus confortable, plus pure aussi.
Vous cherchez la pureté ?
Oui, mais je ne la trouverai pas.
Vous êtes battue d'avance ?
Non, je préfère chercher quelque chose qui n'existe pas plutôt que de trouver quelque chose qui ne m'intéresse pas.
Il faut parfois aller dans la boue pour trouver un diamant.
Je sais, j'y vais.
Le problème avec vous, c'est qu'on ne peut rien vous apprendre. Vous avez réponse à tout.
Si j'avais réponse à tout, je ne serais pas ici. Et je me serais certainement suicidée. Si je vous donnais un « je ne sais pas » comme réponse, vous ne seriez pas plus content. Alors quoi? Vous voudriez me sentir faible et sans défense, incertaine? Je vous empêche de vous prendre pour mon père, c'est ça? J'en ai déjà eu un, déjà, ça va. Il était faible et sans défense et pourtant c'est avec lui que je me suis sentie le plus protégée. Vous voyez comme il n'y a rien d'évident. J'étais sa petite fille, je n'avais pas encore de réponse toute prête et tout allait bien. Je n'ai pas besoin de revivre ce qui m'a profondément comblée, même si je l'ai perdu.
Vous me rassurez.
Menteur. Je vous insécurise comme jamais personne ne vous a insécurisé.
Touché.
Honnête, au moins.
Vous êtes dur.
C'est une qualité. La plupart des humains ne le sont pas assez. Ils plient à tout vent, ils se font sculpter par n'importe qui, ils trahissent. La dureté est un long travail.
Je ne vous accuse pas d'être insensible.
Je sais. Moi, je me suis endurcie pour vivre, sinon ça n'était pas possible.
Alors le mot « dur » n'est peut-être pas le bon mot.
Peut-être. C'est le vôtre, mais je l'adopte. Pour l'instant, il ne signifie pas qu'on ne peut pas me traverser. Au contraire, on peut mieux me traverser parce que je suis dur. Dans un sable mou, on s'enfonce sans arrêt. J'entends tout ce qu'on me dit quand on me traverse. Je ne suis pas devenue dure pour me protéger de la souffrance, pas du tout. Mais c'est mieux d'avoir un scaphandre pour retrouver l'épave du Titanic. Des palmes et un masque ne suffisent pas à ces profondeurs. Disons que je porte un scaphandre.
Vous repartez encore dans vos images.
Vous savez, les images, j'en ai vraiment besoin. Je ne les utilise pas pour vous déjouer ou pour fuir. Elles sont une manière de vérifier ce que je sens. J'ai besoin de concret quand je suis dépassée par les événements. On les prend pour de l'esbrouffe, de l'habileté, de la haute voltige en vue de tromper ou de changer de sujet, non? Non, jamais. Quand je fais une image, c'est que je suis en plein cœur du sujet. Sinon, les images ne viennent même pas. Êtes-vous capable de comprendre ça?
J'apprécie que vous fassiez des pas vers moi. C'est moi qui vais partir d'une image, maintenant celle du scaphandre. Si j'ai bien compris, la thèse de l'accident était votre scaphandre?
Vous avez bien compris.
Et si vous l'enleviez, ce scaphandre?
L'enlever? Je meurs. Et je ne veux pas.
Vous ne le gardez quand même pas pour dormir?
Je dors souvent avec les vêtements qui ont passé la journée avec moi, ça me rassure.
Mais un scaphandre est un vêtement bien encombrant.
Il y a des choses bien plus encombrantes qu'un scaphandre.
Quoi?
Les émotions, par exemple.
Quelles émotions?
Toutes. La peine, la fatigue de fond qui vient avec, tout ça.
La fatigue de fond?
Je crois que je ne me suis jamais remise de ma naissance.
Vous ne vous êtes jamais reposée depuis?
Jamais.
C'est difficile à croire.
La jungle, le trafic incessant, les bombardements, les glissements de terrain, la terre qui passe son temps à s'ouvrir sous nos pieds.
Des images encore.
Les inondations, les tremblements de terre, les attaques de paralysie, les raz-de-marée, les gifles.
Arrêtez!
Les hécatombes, les face-à-face dans un virage, les morsures, les intoxications.
J'ai compris.
Comment une seule personne peut-elle suffire? On devrait être plusieurs sur une même vie. Seul, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on tombe en amour, parce qu'on n'y arrive pas. On appelle même ça partager une vie. Ça dit bien ce que ça veut dire, non? Vous voyez bien que je ne comprends pas tout. C'est même le plus important que je ne comprends pas.
Quoi?
J'ai l'impression d'être toujours passée à côté des choses importantes.
Comme quoi?
Vous voulez encore que je parle de ma relation pourrie avec ma mère? Je l'ai tuée, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne vous parle plus d'accident, vous devriez être content.
Pas tout à fait.
J'en ai marre, laissez-moi tranquille.
Admettez que vous aimiez votre mère.
C'est impossible.
Pourquoi?
Je n'ai pas de preuves.
De preuves?
Avez-vous trouvé une seule personne dans mon entourage qui vous dise que j'aimais ma mère?
Non.
Alors comment voulez-vous que j'y croie? Je l'ai aimée quand j'étais petite, je l'ai voulu, j'ai essayé de la séduire, j'ai tout fait. Elle n'a rien voulu savoir. Alors je me suis mise à lui faire payer, à la détester. Et mon histoire de haine avec elle est 10 fois plus longue que ma tentative d'amour. C'est la haine qui l'a emportée. On ne fait pas d'enfants quand on est incapable de leur donner de l'affection.
Vous êtes dure.
Vous vous répétez.
Radicale?
Et monstrueuse, oui. Aujourd'hui, je pars quand on ne m'aime pas. Je n'ai plus besoin de détester qui que ce soit. Mais où voulez-vous aller à 3 ans, 4 ans? C'est long l'enfance, vous savez. Je n'ai jamais compris pourquoi on prêtait tant de merveilles à l'enfance. C'est une prison à sécurité maximum, alors la sentence du juge, je m'en fous.
Pourquoi ne l'avez-vous pas étranglée de vos propres mains pour la sentir mourir comme il faut? Quand on déteste quelqu'un à ce point, on ne lui choisit pas une mort aussi douce qu'une bulle d'air dans une veine.
Il n'y a pas de mort douce. Où avez-vous pêché ça? Vous l'avez dit vous-même, j'ai bien prémédité mon geste. La vengeance est un plat qui se savoure.
Mais pourquoi ce soir-là, en particulier, le jour de son anniversaire? Vous étiez près d'elle depuis une semaine, pourquoi pas avant?
Mes sœurs étaient toujours là.
Vous avez pourtant réussi à les faire partir facilement ce soir-là, vous auriez pu le faire avant, non? Non, vous l'avez dit vous-même, c'était bien la centième fois qu'elle agonisait, qu'elle était sans défense devant votre haine implacable. Pourquoi pas des années auparavant? Pourquoi ce soir-là?
Je ne sais pas.
Aviez-vous déjà pensé à la tuer?
Souvent. Surtout quand j'étais enfant.
Oui, mais une fois adulte, on oublie ses pulsions d'enfant.
On ne les oublie jamais.
Mais on n'a plus nécessairement envie de les concrétiser à 35 ans.
Quand on est normal.
Parce que vous n'êtes pas normal?
Si, la plupart du temps. Désespérément normal. Mais j'ai des absences. Quand on est obsédé, on est absent du reste.
Et vous étiez obsédé?
Ah, je me suis fait une vie quand même, mais je ne finissais pas mes phrases.
Que voulez-vous dire?
Dans la vie, quand on parle, il arrive souvent qu'on ne finisse pas ses phrases. On fait la même chose avec des textes, des gestes, des amours, n'importe quoi. On ne finit pas, on passe à autre chose. Je sais que ce paquet de choses inachevées finit par faire un tout. Je me promène dans l'existence en apparence au complet, mais avec cette profonde sensation qu'il me manque quelque chose et que ça doit paraître. J'ai l'impression que tout le monde ne voit que ça, ce qui me manque.
Quoi?
Un corps. Je bouge, je ris, je crie, j'ai la peau douce et pourtant je me sens comme un fantôme. Ma mère n'avait pas de main pour toucher. La sculpture n'était pas son fort, alors je me cherche un corps. Vous n'en auriez pas un sous la main?
Vous avez pris celui de votre mère puisque vous l'avez tué, ce n'est pas suffisant?
Un corps marqué, fini, torturé, déformé comme de la plasticine entre les mains d'un fou. Il était trop tard, monsieur l'inspecteur, bien trop tard.
Un corps pourtant chargé de vitalité, je ne vous croyais pas aussi sensible aux apparences.
Prenez garde à ce que vous dites.
Et vous? Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Vos mots sont des écrans, chacun d'eux porte un gilet pare-balles, comme si j'étais armée jusqu'aux dents. Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Vous êtes organisé pour soutenir un siège. Pourquoi? Il n'y a pas d'armée à votre porte. Il y a un homme seul avec un drapeau blanc qui vous propose une trêve pour négocier une réduction de peine. Une réduction de peine. Vous pouvez prendre l'expression au pied de la lettre. Pourquoi toute cette protection? Vous savez, une forteresse résiste mieux à des canons qu'au virus de la peste. Méfiez-vous de l'invisible.
Vous parlez bien pour un policier.
Moi aussi, je sais utiliser les mots, mais je les sors seulement dans les grandes occasions.
C'est un compliment? Ou peut-être cherchez-vous à me séduire? Les hommes font ça souvent. Ils se forcent à s'élever pour impressionner, mais ils redescendent vite après. Ils ne sont pas capables de soutenir.
Qu'est-ce qui vous heurte dans ce que je vous dis? Je suis peut-être la seule personne dans votre vie qui soupçonne que votre relation avec votre mère était une relation d'amour passionné.
Je n'ai pas de preuves.
C'est tout décidé d'avance, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas changer une virgule à votre scénario original. Je n'existe pas, vos sœurs n'existent pas, le juge n'existe pas. Votre intérieur est un prétoire où ne siège que votre culpabilité en impératrice. Vous vous êtes mise au banc des accusés et vous avez contrôlé le procès de A à Z. Vous avez soudoyé les jurés pour qu'ils vous condamnent. Vous avez soudoyé l'avocat de la défense pour qu'il oublie certains détails qui pourraient aider votre cause. Et vous vous êtes envoyé en prison à perpétuité. Mais moi, je viens tout foutre en l'air. Je viens vous empêcher de payer comme vous l'aviez décidé. Votre scénario, c'est de la merde. C'est le plus mauvais film que j'ai jamais vu. Dites-moi que vous adoriez votre mère et que vous n'avez pas supporté qu'elle soit aussi froide, aussi lointaine, que vous n'avez pas supporté qu'elle tombe malade et que vous les avez tous crus quand ils vous ont dit que c'était votre faute.
Pas seulement eux. Ma mère aussi me l'a dit quand elle est sortie du coma. Elle a aussi dit à mon père de ne pas oublier de payer les taxes municipales. Je me demande s'il savait que ça existait, des taxes municipales. Il pleurait tout le temps à l'hôpital, parce qu'il ne savait pas du tout comment la vie fonctionnait. Il était perdu, perdu.
Et vous?
Moi aussi. J'ai vécu pendant ces mois-là ma plus grande période de désarroi, et vous avez raison, je les ai crus. S'ils avaient été les seuls à me le dire, j'aurais pu résister, mais je n'ai pas pu résister à ma mère, elle. Je l'ai cru sur parole. S'il y avait quelqu'un qui connaissait la cause de sa maladie, c'était bien elle.
Vous n'avez pas tué votre mère. Vous l'aviez déjà fait une fois, selon vous. Pourquoi le faire deux fois? Vous ne l'avez pas tué.
Mais votre témoin oculaire, il est objectif, lui. Un témoin oculaire n'est pas une hypothèse de psychologie compliquée. Il est réel, il a des yeux, il parle, il accuse.
C'est vous qui allez me raconter ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de très précis pour que vous en arriviez là.
Mais elle n'était pas morte en 67, il fallait bien que j'achève le travail, pour une fois que je pouvais achever quelque chose.
Ça ne colle pas. Vous l'auriez fait bien avant.
Lisa a raison. Ce geste m'a libérée, si vous saviez.
Mais pas pour les raisons que vous invoquez. Ce geste ne vous a pas libéré de la haine, il vous a fait rencontrer l'amour absolu. J'en suis certain, maintenant. Vous me torturez inutilement.
Je ne vous torture pas. Je veux que vous ouvriez les yeux. Il s'est passé quelque chose de différent. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu dans votre scénario. Quelque chose... Ouvrez cette porte. Ouvrez-la.
Pourquoi voulez-vous voir ce qu'il y a derrière cette porte? N'êtes-vous qu'un voyeur, comme tant d'autres?
Un voyeur n'agit pas. Alors qui êtes-vous? Vous avez besoin de mon curriculum? Je n'en reviens pas de la quantité de cautions, de formulaires en 12 exemplaires dûment certifiés que ça prend pour pouvoir faire affaire avec vous. Même pas pour rentrer chez vous, seulement pour parler sur le pas de la porte.
Alors pourquoi continuez-vous?
Pourquoi est-ce qu'on continue?
Pour trouver des confirmations. Des confirmations de l'absurdité totale de la vie?
Des confirmations de ses intuitions.
Est-ce que tu penses, personne ne pourra jamais toucher à ça. Puis, est-ce que tu penses, moi je sais bien que c'est tout ce qui te reste à toi.
Elle chante hors d'elle-même. Moi, on m'a coupé de mes intuitions. On a prétendu le contraire de ce que je sentais et je n'ai pas eu d'autre choix que de les croire puisque je n'avais pas d'alliés. C'est dur de continuer de croire quand on n'a pas d'alliés. Dans ces conditions, c'est vraiment impossible de se faire un avenir. Le futur lui-même n'a pas d'avenir dans ces conditions précaires. L'instant est obèse, le passé est rachitique, et demain n'existe pas. Toutes les absences sont des morts, les bons moments sont des mensonges peut-être, les gens qu'on aime sont tous des couteaux à cran d'arrêt qui peuvent s'ouvrir à tout moment accidentellement. Il ne faut donc pas se tenir trop proche. On va de bivouac en bivouac, permanent du provisoire, en vieux habitués, et ça finit par faire une sécurité. Et pendant tout ce temps, on essaye de ne pas trop laisser de mort derrière soi parce qu'on sait que c'est de la faute à personne, que c'est comme ça. Il y en a qui s'en sortent plus mal et qui font des hécatombes autour d'eux, ça tombe comme des mouches. Moi, j'ai essayé de limiter les dégâts. Je n'ai détesté personne à cause de ça.
Même pas votre mère.
Je croyais lui avoir pardonné.
Alors pourquoi l'avez-vous tuée? Que s'est-il passé ce soir-là?
Il fallait que je fasse quelque chose. C'était urgent. Je n'étais pas capable d'aimer personne d'autre parce qu'elle ne m'avait pas répondu.
Répondu à quoi?
À mon amour. Elle avait le don de tout balayer d'un revers de la main comme si rien n'était important. Et moi, je la croyais, je l'ai toujours cru. Ses mouvements d'impatience quand je l'embrassais, ses moitiés de phrases, son air coupé quand je lui apportais un bouquet de marguerites dans lequel j'avais mis tout mon amour en les ramassant, croyant que l'amour ne pouvait pas faire autrement que d'être contagieux quand il était grand comme ça.
Vous l'aimiez vraiment beaucoup?
Oui. Vraiment beaucoup. Mais ça n'a pas duré, comme vous avez pu le constater dans les différents rapports que vous collectionnez sur moi. Vous vous êtes donné du mal pour rien, ils disent tous la même chose.
C'est ça, le propre d'une collection. Vous venez encore de me refermer la porte sur les doigts.
Enlevez-les de là.
Je pensais pouvoir vous aider. J'aurais aimé faire quelque chose pour vous changer le cours de...
De ma vie. Le reste de ma vie est tout tracé.
De vos mots, surtout. De vos mots. De multiples torrents qu'il faudrait harnacher. Vous êtes sauvage.
Elle était farouche. Personne n'avait jamais songé à lui prendre la main. Une vieille phrase. Je me cite.
Et quand on essaye de la prendre, cette main, vous mordez. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Mais comme je suis moi-même un être buté et coriace, je vais faire une dernière tentative avec vous. Vous ne voulez pas ouvrir la porte? Pour aérer seulement. Pour aérer. Ça doit sentir le renfermer là-dedans.
Je suis fermée pour rénovation. Il faudra attendre la nouvelle administration.
Encore de l'humour.
Heureusement, de l'humour.
Pourquoi ne voulez-vous pas parler?
Je n'arrête pas de parler.
Vous faites de la diversion.
Merci pour la peine.
Que cachez-vous donc de si important pour avoir tant besoin du renfort de milliers de mots inutiles?
Rien.
Vous cachez tout, le principal.
Il n'y a pas de principal et de secondaire.
Il y a eu meurtre.
Il y a eu meurtre.
Quelque chose s'est passé.
Quelque chose s'est passé.
Qui a cassé momentanément votre raison.
Qui a cassé momentanément ma raison.
L'accident était moins insupportable.
L'accident était moins insupportable.
Pourquoi répétez-vous ce que je dis?
Parce que c'est plus facile. Vos mots parlent plus que les miens. Je ne peux pas y arriver seule.
Vous avez besoin de moi?
J'ai besoin de vous, mais après vous partirez. D'habitude, je m'en vais, mais là...
C'est drôle de dire à quelqu'un « Va-t'en parce que j'ai eu besoin de toi. » Je partirai. Où vous êtes-vous procuré cette seringue?
Une amie infirmière.
Elle savait ce que vous alliez faire avec?
Non. Il fallait que je sois seule avec mon acte. J'avais un besoin fou d'intimité avec cet acte.
Le nom de cette femme?
Vous ne le saurez pas.
Elle ne vous a rien dit quand elle a su?
Rien. Ou elle avait peur pour elle, ou elle avait confiance en moi. Je ne sais pas discerner ce genre de subtilité.
Mais vous préférez croire qu'elle avait peur pour elle?
Oui, c'est plus facile.
Pourquoi avez-vous tué votre mère?
Parce qu'elle me l'a demandé.
Quand?
La veille.
L'auriez-vous fait sans qu'elle vous le demande?
Non.
Vous auriez pu refuser.
Elle me l'a demandé à moi, vous comprenez? À moi, à personne d'autre. Elle m'a demandé de lui donner la mort, comme un cadeau. Je ne pouvais pas lui refuser. Elle a eu besoin de moi seule. Elle savait que ça prenait une overdose d'amour pour y arriver. Et c'est à moi qu'elle l'a demandé, à moi qui l'avait déjà tuée une fois. Comprenez-vous ce que ça signifie? Elle m'aimait. Elle m'aimait. Je l'ai vue cette nuit-là. Elle m'a dit « Comme tu ressembles à ton père ». Au moment où je me rendais compte pour la première fois de ma vie qu'elle et moi, on avait les mêmes yeux, la même bouche, le même point de beauté sur la joue droite. J'étais sa fille, vous comprenez? C'était la première fois que je le voyais, que je le voulais. Elle m'a dit « Je ne peux plus souffrir, je compte sur toi. Je compte sur toi. » Elle voulait mourir de ma main. « Je compte sur toi. » Elle ne m'avait jamais rien demandé. J'ai dit « Oui, maman. » Je lui ai dit « Oui. » Alors qu'on ne s'était jamais parlé avant, je lui ai dit « Oui. »
Et le lendemain?
Je suis arrivée près d'elle sans un mot et j'ai sorti la seringue.
Elle était consciente?
Complètement. L'eau lui est montée aux yeux, elle a souri. Elle m'a fait un signe de la main comme pour dire au revoir et elle a dit « Bye. » Puis elle a fermé les yeux.
Elle n'a pas souffert?
Allez donc essayer d'identifier une souffrance quand la souffrance est omniprésente. Elle ne s'est jamais plainte. On l'entendait dans son corps, la souffrance, pas dans sa bouche. Je lui ai fait la piqûre et ça n'a pas été long. Elle a eu un léger spasme, comme quand on dort et qu'on sursaute. C'est tout. Son corps s'est détendu à ce point qu'il s'est complètement refait entre le moment où elle est morte et le moment où garde Bouchard est entré dans la chambre.
À quelle heure est-elle morte?
À minuit 20.
Ce geste que vous aviez imaginé pendant des années à cause de la haine, vous le commettiez dans la réalité à cause de l'amour.
Oui, c'est dur à comprendre.
Vous préfériez l'accident?
Elle se remettait entre mes mains pour une caresse ultime. Je lui ai fait une seule caresse dans ma vie, une seule. C'est elle qui m'a demandé de la caresser. Et en même temps, elle ouvrait la porte blindée entre nous. Doucement, sans explosif. Puis elle est partie sans me laisser seule pour une fois. C'est une femme formidable.
Qu'avez-vous fait après? Nous vous avons cherché.
Après, je suis allée marcher au bord de l'eau, dans le sable mou sur la grève du lac Kenogami. Il faisait si chaud. Je revois garde Bouchard me regarder hagarde, incapable de dire un mot. Elle ne savait pas quoi faire, elle était dans l'inconnu. C'est rare d'être témoin d'un acte d'amour. Je me demande si on peut s'en remettre.
Vous aurez probablement une sentence légère si vous tombez sur un juge compréhensif. Il y en a, vous savez.
Oui.
Ça va?
Je ne sais pas.
Avez-vous besoin de quelque chose?
Je ne sais pas.
Vous êtes fatiguée. Je vais vous laisser dormir.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce voyage. Peut-être pour le faire avec vous.
Je comprends.
Pas moi.
C'est sans importance.
Je vais retourner à mes fleurs. Je les ai un peu délaissées ces derniers temps. J'ai une serre, vous savez.
Oui, je sais.
Je vous en ai déjà parlé?
Non, ce n'était pas nécessaire.
Vous êtes une drôle de fille.
Oui, drôle.
Oui.
Peut-être.
Oui.
On va...
Oui.
C'est...
Oui.
Alors?
Oui.
Bon.
Oui.
Bye.
Bye.
L'inspecteur sort lentement après en être arrivé au silence avec elle. La chanson du destin aveugle.
La ville était ce matin-là couleur de miel et de melon, juillet tranquille de ville vide. Une femme marchait le long de l'eau. Elle avait l'air d'être arrivée, d'être rendue plus loin qu'il faut. Juillet flottait en brume chaude. Au ras de l'eau comme un parfum, c'était comme si la terre fondait. Cette femme transportait sa vie dans une valise plus vide encore qu'un trou béant dans un mur gris. Juillet crevait dans sa moiteur, même à 6 heures, même à midi, on aurait cru que l'air manquait. Cette femme a-t-elle été aimée pour être seule ce matin-là, une valise vide dans ses yeux noirs? Juillet pourtant changeait le monde, il n'avait pas de clameurs sèches ni de sursauts qui cassent les corps. Cette femme a-t-elle été aimée par quelqu'un qui voulait la voir, miser sur tout ce qui lui manque? Cette femme a-t-elle trop risqué, quitte ou double de toute vie quand c'est la seule qu'il nous reste? Cette femme a-t-elle déjà payé un prix plus élevé que sa vie, comme on fait dans tout monde triste? Cette femme a-t-elle déjà aimé, comme on ne devrait pas aimer en donnant toujours plus qu'elle-même? Juillet ne prenait pas la peine d'être si lent pour ses beaux yeux, il y avait tant de chaleur vaine. Cette femme ne faisait voir de rien, quand il s'agissait de sa vie, elle souriait dans les salons. Juillet crânait dans sa douceur, il savait bien qu'il était seul alors qu'il voulait être 1000. Cette femme a-t-elle été aimée pour être seule ce matin-là, une valise vide, dans ses mains vides? Départ. Cat Vale, nuit du 9 au 10 janvier 82. Fin. Montréal, 2 août 87.
Au moment où la déposition a été créée, c'est une pièce qui était vachement bien ficelée. C'est une pièce féministe qui nous sortait aussi de tout ce qui était soit trop extraterrestre, là, parce qu'on a eu toute notre période, là, la lanière blanche, puis de déesse, puis d'une théâtrographie où on réinventait tous les personnages, ou, à l'autre bout du spectre, un théâtre plus dénonciateur, militant. Et elle est arrivée avec cet objet tout en profondeur, en délicatesse. Oui. Mais artistiquement, aujourd'hui, est-ce que cette pièce-là résonnerait de la même façon que toutes ces écritures qui ont suivi? Le théâtre n'a pas toujours à survivre à tout. Des fois, c'est un théâtre qui ouvre des portes. Et pour nous, c'est sûr que la déposition, ça a été le début d'un nouveau cycle. Et c'est quand même énorme, c'est qu'Hélène ait demandé que ce soit un homme qui enseigne la mise en scène. Donc, c'était aussi une façon de nous dire, hey, les filles, ouvrez. La destinée d'Espace Go, du TEF à Espace Go, d'Espace Go aujourd'hui, a toujours été présidée par des femmes. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui sont des alliés, des créateurs qui sont des alliés. C'est Hélène qui a ouvert encore une fois la porte.
Elle était à la fois très transparente du fait de son indignation absolue sur tellement de sujets, mais elle était aussi très pudique par rapport à ses sentiments. Alors, mon métier de metteur en scène aussi est quelque chose du détecteur, psychologue, fouilleur, qui ressemble un peu au personnage de l'inspecteur d'une certaine manière. Et puis j'avais parfois l'impression que l'inspecteur devant Léna Foulvy, c'était un peu moi avec Hélène. Cette espèce de désir de dire et de résistance à dire les choses, à nous laisser deviner le vrai du faux, le devant du plus flou, ce qui est nécessaire et ce qui est ce qui permet cette nécessité. Alors, toutes ces choses-là faisaient en sorte qu'elle était... On avait envie de la comprendre et on avait un certain plaisir à la deviner. Et en même temps, il fallait être prudent parce que ça prenait pas grand-chose pour qu'elle dise « Non, c'est pas ça ». Alors, ça a été... C'est une énorme chance parce que j'étais entouré de femmes. Au Théâtre expérimental des femmes, qui était la base même de l'espace Go, on était, à part René Gagnon, le comédien, et Carlos Ferrand à l'éclairage, que des filles sur toute la production. Et j'étais le premier metteur en scène homme à travailler sur une pièce du Théâtre expérimental des femmes. C'est un honneur. Et sur un texte, en plus, d'une journaliste formidable, d'une femme, qui s'était à peu près mêlée de tous les sujets et qui était cependant à sa première œuvre dramatique. Alors j'avais en même temps l'espèce de candeur, simplicité de quelqu'un qui offre avec beaucoup d'inquiétude une œuvre à une équipe, à un metteur en scène, et en même temps, sans que ce soit des certitudes, une femme qui avait des opinions, accompli quand même pas mal de choses, et porté à bout de bras beaucoup d'idéologies à la défense de ses consoeurs et de ses confrères. Alors, il y avait comme quelque chose de dichotomique là-dedans.
Mais oui, je veux dire, le rapport d'une fille à sa mère, le rapport amour-haine, c'est le rapport amour-haine à la mère, oui, qui était très particulier. Et puis cet acte courageux qu'elle a fait de la tuer, finalement. Hein? Donc, on ne parlait pas de ça à cette époque-là, c'était vraiment... Mais moi, je suis pas d'accord qu'on pourrait pas la remonter. Parce que ce rapport amour-haine est tellement complexe, puis c'est tellement encore tabou entre les filles et les mères, que de remettre ça à jour, c'est extraordinaire. En plus, c'est dans l'écriture, c'est magnifiquement écrit, puis c'est aussi un suspense. Tu sais, il y a vraiment de tout... Hélène était une amatrice de romans policiers. Hein? Oui. J'avais oublié ça. T'sais. Ça me revient à cause parce qu'on parle de la déposition. Mais oui, bon suspense là-dedans. Et aussi, je dirais, cette relation entre l'inspecteur et elle qui est merveilleuse. Puis c'est une relation homme-femme. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une relation qu'on ne voit pas souvent. Tiens, on a vu des huis clos dans les policiers, mais c'est entre un homme bandit, là, puis un policier. Mais qu'il y a ce rapport-là à la fois de tension, là, d'antagonisme, et puis aussi de complicité, presque. Tu sais, parce que c'est un huis clos. On rentre dans une sorte d'intimité, finalement. Fait que ça, je trouve ça passionnant. Ça serait beau encore de revoir ça, je suis sûre.
Vous venez d'entendre la troisième partie de La Déposition, une pièce de théâtre de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Ginette Noiseux, Claude Poisson et Louise Laprade. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Gros.